chapitre 27 et suivant. Tu dors, Robespierre, l'heure passe, le temps précieux coule. Enfin, le 8 Thermidor, à la Convention, l'incorruptible se lève et va parler. Soleil du 31 mai, te lèves-tu une seconde fois? Gamelin attend, espère. Robespierre va donc arracher des bancs qu'il déshonore, ses législateurs plus coupables que des fédéralistes, plus dangereux que Danton. Non, pas encore. Je ne puis, dit-il, me résoudre à déchirer entièrement le voile qui recouvre ce profond mystère d'iniquité. Et la foule éparpillée, sans frapper aucun des conjurés, les effraie tous. On en comptait 60 qui, depuis 15 jours, n'osaient coucher dans leur lit. Marat nommait les traîtres, lui, il les montrait du doigt. L'incorruptible hésite, et dès lors, c'est lui l'accusé. Le soir, aux Jacobins, on s'étouffe dans la salle, dans les couloirs, dans la cour. Ils sont là, tous, les amis bruyants et les ennemis muets. Robespierre leur lit ce discours que la Convention a entendu dans un silence affreux et que les Jacobins couvrent d'applaudissements émus. « C'est mon testament de mort, dit l'homme. Vous me verrez boire la ciguë avec calme. »« Je la boirai avec toi, répond David. »« Tous, tous, s'écrient les Jacobins, qui se séparent sans rien décider. » Évariste, pendant que se préparait la mort du juste, dormit du sommeil des disciples au jardin des Oliviers. Le lendemain, il se rendit au tribunal où deux sections siégeaient. Celle dont il faisait partie jugeait 21 complices de la conspiration de Lazare. Et pendant ce temps, arrivaient les nouvelles. La Convention, après une séance de 6 heures, a décrété d'accusation Maximilien Robespierre, Couthon, Saint-Just, avec Augustin, Robespierre et Lebas, qui ont demandé à partager le sort des accusés. Les 5 proscrits sont descendus à la barre. On apprend que le président de la section, qui fonctionne dans la salle voisine, le citoyen Dumas, a été arrêté sur son siège, mais que l'audience continue. On entend battre la générale et sonner le tocsin. Évariste, à son banc, reçoit de la commune l'ordre de se rendre à l'hôtel de ville pour siéger au conseil général. Au son des cloches et des tambours, il rend son verdict avec ses collègues et court chez lui embrasser sa mère et prendre son écharpe. La place de Thionville est déserte. La section n'ose se prononcer ni pour ni contre la Convention. On rase les murs, on se coule dans les allées, on rentre chez soi. À l'appel du tocsin et de la générale répondent les bruits des volets qui se rabattent et les serrures qui se ferment. Le citoyen Dupont-Aîné s'est caché dans sa boutique. Le portier Renacle se barricade dans sa loge. La petite Joséphine retient craintivement Mouton dans ses bras. La citoyenne veuve Gamelin gémit de la chair télévivre, cause de tout le mal. Et au pied de l'escalier, Évariste rencontre Élodie essoufflée, ses mèches noires collées sur son cou moite. Je t'ai cherché au tribunal, tu venais de partir. Où vas-tu ? À l'hôtel de ville. N'y va pas, tu te perdrais. Henriot est arrêté. Les sections ne marcheront pas. La section des Pics, la section de Robespierre, reste tranquille. Je le sais, mon père en fait partie. Oh, si tu vas à l'hôtel de ville, tu te perds inutilement. Mais tu veux que je sois lâche ? Il est courageux, au contraire, d'être fidèle à la Convention et d'obéir à la loi. La loi est morte quand les scélérats triomphent. Évariste, écoute ton Élodie. Écoute ta sœur, viens t'asseoir près d'elle pour qu'elle apaise ton âme irritée. Il la regarda. Jamais elle ne lui avait paru si désirable. Jamais cette voix n'avait sonné à ses oreilles si voluptueuse et si persuasive. Deux pas seulement, mon ami. Elle l'entraîna vers le terre-plein qui portait le piédestal de la statue renversée. Des bancs faisaient le tour, garnis de promeneurs et de promeneuses. Une marchande de frivolités offrait des dentelles. Le marchand de tisane, portant sur son dos sa fontaine, agitait sa sonnette. Des fillettes jouaient aux grâces. Sur la berge, des pêcheurs se tenaient immobiles, leurs lignes à la main. Le temps était orageux, le ciel voilé. Gamelin, penché sur le parapet, plongeait ses regards sur l'île pointue comme une proue, écoutait gémir au vent la cime des arbres, et sentait entrer dans son âme un désir infini de paix et de solitude. Et, comme un écho délicieux de sa pensée, la voix d'Élodie soupira. « Te souviens-tu, quand, à la vue des champs, tu désirais être juge de paix dans un petit village ? Ce serait le bonheur. » Mais, à travers le bruissement des arbres et la voix de la femme, il entendait le tocsin, la générale, le fracas lointain des chevaux et des canons sur le pavé. À deux pas de lui, un jeune homme qui causait avec une citoyenne élégante dit « Connaissez-vous la nouvelle ? L'opéra est installé rue de la Loi. » Cependant, on savait. On chuchotait le nom de Robespierre, mais en tremblant, car on le craignait encore. Et les femmes, au bruit murmuré de sa chute, dissimulaient un sourire. Évariste Gamelin saisit la main d'Élodie et aussitôt la rejeta brusquement. « Adieu, je t'ai associé à mes destins affreux, j'ai flétri à jamais ta vie. Adieu, puisses-tu m'oublier ?»« Surtout, lui dit-elle, ne rentre pas chez toi cette nuit. Viens à l'amour peintre. Ne sonne pas, jette une pierre contre mes volets. J'irai t'ouvrir moi-même la porte, je te cacherai dans le grenier. Non, tu me reverras triomphant ou tu ne me reverras plus. Adieu. » En approchant de l'hôtel de ville, il entendit monter vers le ciel lourd la rumeur des grands jours. Sur la place de Grève, un tumulte d'armes, un flamboiement d'écharpes et d'uniformes, les canons d'Orion en batterie. Il gravit l'escalier d'honneur et, en entrant dans la salle du conseil, signe la feuille de présence. Le conseil général de la commune, à l'unanimité des 491 membres présents, se déclare pour les proscrits. Le maire se fait apporter la table des droits de l'homme, lit l'article où il est dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus saint, le plus indispensable des devoirs. » Et le premier magistrat de Paris déclare qu'au coup d'état de la Convention, la commune oppose l'insurrection populaire. Les membres du Conseil général font serment de mourir à leur poste. Deux officiers municipaux sont chargés de se rendre sur la place de Grève et d'inviter le peuple à se joindre à ses magistrats afin de sauver la patrie et la liberté. On se cherche, on échange des nouvelles, on donne des avis. Parmi ces magistrats, peu d'artisans. La commune réunie là est telle que la fête l'épuration jacobine. Des juges et des jurés du tribunal révolutionnaire, des artistes comme Beauvalet et Gamelin, des rentiers, des professeurs, des bourgeois cossus, de gros commerçants, des têtes poudrées, des ventres à breloques. Peu de sabots, de pantalons, de carmagnoles, de bonnets rouges. Ces bourgeois sont nombreux, résolus. Mais quand on y songe, c'est à peu près tout ce que Paris compte de vrai républicain. Debout dans la maison de ville, comme sur le rocher de la liberté, un océan d'indifférence les environne. Pourtant, des nouvelles favorables arrivent. Toutes les prisons où les proscrits ont été enfermés ouvrent leurs portes et rendent leur proie. Augustin, Robespierre, venu de la force, entre le premier à l'hôtel de ville et est acclamé. On apprend à 8 heures que Maximilien, après avoir longtemps résisté, se rend à la commune. On l'attend, il va venir, il vient. Une acclamation formidable ébranle les voûtes du vieux palais municipal. Il entre, porté par 20 bras. Cet homme mince, propre air, en habit bleu et culotte jaune, c'est lui. Il siège, il parle. À son arrivée, le conseil ordonne que la façade de la maison commune sera sur le champ illuminée. En lui, la République réside. Il parle d'une voix grêle, avec élégance. Il parle purement, abondamment. Ceux qui sont là, qui ont joué leur vie sur sa tête, s'aperçoivent, épouvantés, que c'est un homme de parole, un homme de comité, de tribune, incapable d'une résolution prompte et d'un acte révolutionnaire. On l'entraîne dans la salle des délibérations. Maintenant, ils sont là, tous, ces illustres proscrits. Le bas Saint-Just Couthon. Robespierre parle. Il est minuit et demi, il parle encore. Cependant, Gamelin, dans la salle du conseil, le front collé à une fenêtre, regarde d'un œil anxieux. Il voit fumer les lampions dans la nuit sombre. Les canons d'Orio sont en batterie devant la maison de ville. Sur la place toute noire s'agit d'une foule incertaine, inquiète. À minuit et demi, des torches débouchent au coin de la rue de la Vannerie, entourant un délégué de la Convention qui, revêtu de ses insignes, déploie un papier et lit dans une rouge lueur le décret de la Convention, la mise hors la loi des membres de la commune insurgée, des membres du conseil général qui l'assistent, et des citoyens qui répondraient à son appel. La mise hors la loi, la mort sans jugement. Oh, la seule idée en fait pâlir les plus déterminés. Gamelin sent son front se glacer. Il regarde la foule quitter à grands pas la place de Grève. Et quand il tourne la tête, ses yeux voient que la salle où les conseillers s'étouffaient tout à l'heure est presque vide. Mais ils ont fui en vain, ils avaient signé. Il est 2 heures. L'incorruptible délibère dans la salle voisine avec la commune et les représentants proscrits. Gamelin plonge ses regards désespérés sur la place noire. Il voit, à la clarté des lanternes, les chandelles de bois s'entrechoquer sur l'auvent de l'épicier avec un bruit de quilles. Les réverbères se balancent et vacillent. Un grand vent s'est élevé. Un instant après, une pluie d'orage tombe. La place se vide entièrement. Ce que n'avait pas chassé le terrible décret, quelques gouttes d'eau les dispersent. Les canons d'Orio sont abandonnés. Et quand on voit la lueur des éclairs déboucher en même temps par la rue Antoine et par le quai, les troupes de la Convention, les abords de la maison commune sont déserts. Enfin, Maximilien s'est décidé à faire appel du décret de la Convention à la section des piques. Le conseil général se fait apporter des sabres, des pistolets, des fusils. Mais un fracas d'armes, de pas et de vitres brisées emplit la maison. Les troupes de la Convention passent comme une avalanche à travers la salle des délibérations et s'engouffrent dans la salle du Conseil. Un coup de feu retentit. Gamelin voit Robespierre tomber, la mâchoire fracassée. Lui-même, il saisit son couteau, le couteau de 6 sous qui, un jour de famine, avait coupé du pain pour une mère indigente, et que, dans la ferme d'Orangis, par un beau soir, Élodie avait gardé sur ses genoux en tirant les gages. Il l'ouvre, veut l'enfoncer dans son cœur. La lame rencontre une côte et se replie sur la virole qui a cédé, et il s'entame 2 doigts. Gamelin tombe ensanglanté. Il est sans mouvement, mais il s'ouvre d'un froid cruel et, dans le tumulte d'une lutte effroyable, foulé aux pieds, il entend distinctement la voix du jeune dragon Henri qui s'écrie « Le tyran n'est plus, ses satellites sont brisés. La révolution va reprendre son cours majestueux et terrible. » Gamelin s'évanouit. À 7 heures du matin, un chirurgien envoyé par la Convention le pansa. La Convention était pleine de sollicitude pour les complices de Robespierre. Elle ne voulait pas qu'aucun d'eux échappât à la guillotine. L'artiste peintre, ex-juré, ex-membre du Conseil général de la Commune, fut porté sur une civière à la Conciergerie. Chapitre 28. Le 10, tandis que, sur le grabat d'un cachot, Évariste, après un sommeil de fièvre, se réveillait en sursaut dans une indicible horreur, Paris, en sa grâce et son immensité, souriait au soleil. L'espérance renaissait au cœur des prisonniers. Les marchands ouvraient allègrement leurs boutiques. Les bourgeois se sentaient plus riches, les jeunes hommes plus heureux, les femmes plus belles par la chute de Robespierre. Seule une poignée de jacobins, quelques prêtres constitutionnels et quelques vieilles femmes tremblaient de voir l'Empire passer aux méchants et aux corrompus. Une délégation du tribunal révolutionnaire, composée de l'accusateur public et de 2 juges, se rendait à la Convention pour la féliciter d'avoir arrêté les complots. L'Assemblée décidait que l'échafaud serait dressé de nouveau sur la place de la Révolution. On voulait que les riches, les élégants, les jolies femmes puissent voir sans se déranger le supplice de Robespierre, qui aurait lieu le jour même. Le dictateur et ses complices étaient hors la loi. Il suffisait que leur identité fût constatée par 2 officiers municipaux pour que le tribunal les livrât immédiatement à l'exécuteur. Mais une difficulté surgissait. Les constatations ne pouvaient être faites dans les formes, la commune étant tout entière hors la loi. L'Assemblée autorisa le tribunal à faire constater l'identité par des témoins ordinaires. Les triumvirs furent traînés à la mort avec leurs principaux complices, au milieu des cris de joie et de fureur, des imprécations, des rires, des danses. Le lendemain, Évariste, qui avait repris quelques forces et pouvait presque se tenir sur ses jambes, fut tiré de son cachot, amené au tribunal et placé sur l'estrade qu'il avait tant de fois vu chargé d'accusés, où s'étaient assises tour à tour tant de victimes illustres ou obscures. Elle gémissait maintenant sous le poids de 70 individus, la plupart membres de la commune, et quelques-uns jurés comme Gamelin, mis comme lui hors la loi. Il revit son banc, le dossier sur lequel il avait coutume de s'appuyer, la place d'où il avait terrorisé des malheureux, la place où il avait fallu subir le regard de Jacques Maubel, de Fortuné Chassagne, de Maurice Brotteau, les yeux suppliants de la citoyenne Rochefort qu'il avait fait nommer juré et qu'il en avait récompensé par un verdict de mort. Il revit, dominant l'estrade où les jurés siégeaient sur 3 fauteuils d'acajou garnis de velours d'Utrecht rouge, les bustes de Chalier et de Varat, et ce buste de Brutus qu'il avait un jour attesté. Rien n'était changé, ni les haches, les faisceaux, les bonnets rouges du papier de tenture, ni les outrages jetés par les tricoteuses des tribunes à ceux qui allaient mourir, ni l'âme de Fouquet-Tinville, têtu, laborieux, remuant avec zèle ses papiers homicides et envoyant, magistrat accompli, ses amis de la veille à l'échafaud. Les citoyens Remacle, portier tailleur, et Dupont aîné, menuisier, place de Thionville, membre du comité de surveillance de la section du Pont-Neuf, reconnurent Gamelin, artiste peintre, ex-juré au tribunal révolutionnaire, ex-membre du conseil général de la commune. Il témoignait pour un assignat de 100 sols aux frais de la section. Mais parce qu'ils avaient eu des rapports de voisinage et d'amitié avec le proscrit, ils éprouvaient de la gêne à rencontrer son regard. Au reste, il faisait chaud. Ils avaient soif et étaient pressés d'aller boire un verre de vin. Gamelin fit un effort pour monter dans la charrette. Il avait perdu beaucoup de sang et sa blessure le faisait cruellement souffrir. Le cocher fouetta sa hiéridelle, et le cortège se mit en marche au milieu des huées. Des femmes qui reconnaissaient Gamelin lui criaient « Va donc, buveur de sang, assassin à 18 francs par jour !»« Ah, il rit plus, voyez comme il est pâle, le lâche !» C'étaient les mêmes femmes qui insultaient la guerre les conspirateurs et les aristocrates, les exagérés et les indulgents envoyés par Gamelin et ses collègues à la guillotine. La charrette tourna sur le quai des Morts-Fondus, gagna lentement le Pont-Neuf et la rue de la Monnaie. On allait à la place de la Révolution, à l'échafaud de Robespierre. Le cheval boitait, à tout moment le cocher lui effleurait du fouet et les oreilles. La foule des spectateurs, joyeuse, animée, retardait la marche de l'escorte. Le public félicitait les gendarmes qui retenaient leurs chevaux. Au coin de la rue Honoré, les insultes redoublèrent. Des jeunes gens, attablés à l'entresol dans les salons des traiteurs à la mode, se mirent aux fenêtres, leurs serviettes à la main, et crièrent « Cannibales, anthropophages, vampires !» La charrette ayant buté dans un tas d'ordures qu'on n'avait pas enlevées en ces deux jours de trouble, la jeunesse dorée éclata de joie. « Oh, le char embourbé, dans la gadoue, les Jacobins !» Gamelin songeait, et il crut comprendre. « Demeure justement, pensa-t-il. Il est juste que nous recevions ces outrages jetés à la République et nous aurions dû la défendre. Nous avons été faibles, nous sommes rendus coupables d'indulgence, nous avons trahi la République, et nous avons mérité notre sort. Robespierre lui-même, le pur, le saint, a péché par douceur, par mansuétude. Ses fautes sont effacées par son martyr. À son exemple, oui, j'ai trahi la République, elle périt. Il est juste que je meure avec elle. J'ai épargné le sang, que mon sang coule. Que je périsse, oui, je l'ai mérité. » Tandis qu'il songeait ainsi, il aperçut l'enseigne de l'amour peintre, et des torrents d'amertume et de douceur roulèrent en tumulte dans son cœur. Le magasin était fermé, les jalousies des trois fenêtres de l'entresol entièrement rabattues. Quand la charrette passa devant la fenêtre de gauche, la fenêtre de la chambre bleue, une main de femme, qui portait à l'annulaire une bague d'argent, écarta le bord de la jalousie et lança vers Gamelin un œillet rouge que ses mains liées ne purent saisir, mais qu'il adora comme le symbole et l'image de ses lèvres rouges et parfumées dont s'était rafraîchie sa bouche. Ses yeux se gonflèrent de larmes, et ce fut, tout pénétré du charme de cet adieu, qu'il vit se lever sur la place de la Révolution le couteau ensanglanté. Dernier chapitre, 29. La Seine charriait les glaces de Nivose. Le bassin des Tuileries, les ruisseaux, les fontaines étaient gelées. Le vent du nord soulevait dans les rues des ondes de frimas. Les chevaux expiraient par les naseaux une vapeur blanche. Les citadins regardaient en passant le thermomètre à la porte des opticiens. Un commis essuyait la buée sur les vitres de l'amour peintre et les curieux jetaient un regard sur les estampes à la mode. Robespierre, pressant au-dessus d'une coupe un cœur comme un citron pour en boire le sang, et de grandes pièces allégoriques telles que le Tigrocratie de Robespierre. Ce n'étaient qu'hydres, serpents, monstres affreux, déchaînés sur la France par le tyran. Et l'on voyait encore l'horrible conspiration de Robespierre, l'arrestation de Robespierre, la mort de Robespierre. Ce jour-là, après le dîner de midi, Philippe Desmahy entra son carton sous le bras à l'amour peintre et apporta au citoyen Jean Blaise une planche qu'il venait de graver au pointillé, le suicide de Robespierre. Le burin picaresque du graveur avait fait Robespierre aussi hideux que possible. Le peuple français n'était pas encore sous de tous ces monuments qui consacraient l'opprobre et l'horreur de cet homme chargé de tous les crimes de la Révolution. Pourtant, le marchand d'estampes, qui connaissait le public, avertit Desmahy qu'il lui donnerait désormais des sujets militaires à graver. Il va nous falloir des victoires et conquêtes, des sabres, des panaches, des généraux. Nous sommes partis pour la gloire. Je sens cela en moi, mon cœur bat au récit des exploits de nos vaillantes armées. Et quand j'éprouve un sentiment, il est rare que tout le monde ne l'éprouve pas en même temps. Ce qu'il nous faut, ce sont des guerriers, des femmes, Mars et Vénus. Citoyen Blaise, j'ai encore chez moi 2 ou 3 dessins de Gamelin que vous m'avez donnés à graver. Est-ce pressé ? Oh non, nullement. Ah, à propos de Gamelin, hier, en passant sur le boulevard du Temple, j'ai vu chez un brocanteur qui a son échoppe vis-à-vis de la maison de Beaumarchais toutes les toiles de ce malheureux. Oh, il y avait son Oreste et Électre. La tête de l'Oreste, qui ressemble à Gamelin, est vraiment belle, je vous assure. La tête et les bras sont superbes. Le brocanteur m'a dit qu'il n'était pas embarrassé de vendre ses toiles à des artistes qui peindront dessus. Ce pauvre Gamelin, il aurait eu peut-être un talent de premier ordre s'il n'avait pas fait de politique. Mais il avait l'âme d'un criminel, répliqua le citoyen Blaise. Je l'ai démasqué à cette place même, alors que ses instincts sanguinaires étaient encore contenus. Mais l'a jamais pardonné. Oh, c'était une belle canaille. Non, le pauvre garçon, il était sincère. Ce sont les fanatiques qui l'ont perdu. Vous ne le défendez pas, je pense, Desmahy. Il n'est pas défendable. Non, ouais, citoyen Blaise, il n'est pas défendable. Et le citoyen Blaise, tapant sur l'épaule du beau Desmahy, oh, les temps sont changés. On peut vous appeler Barbarou maintenant que la Convention rappelle les proscrits. J'y songe. Desmahy. Allez, gravez-moi donc un portrait de Charlotte Corday. Une femme, grande et belle, brune, enveloppée de fourrure, entra dans le magasin et fit au citoyen Blaise un petit salut intime et discret. C'était Julie Gamelin. Mais elle ne portait plus ce nom déshonoré. Elle se faisait appeler la citoyenne veuve Chassagne. Et était habillée sous son manteau d'une tunique rouge en l'honneur des chemises rouges de la terreur. Julie avait d'abord senti de l'éloignement pour l'amante d'Évariste. Tout ce qui avait touché à son frère lui était odieux. Mais la citoyenne Blaise, après la mort d'Évariste, avait recueilli la malheureuse mère dans les combles de la maison de l'amour peintre. Julie s'y était aussi réfugiée. Puis elle avait retrouvé une place dans la maison de mode de la rue des Lombards. Ses cheveux courts, à la victime, son air aristocratique, son deuil, lui attiraient les sympathies de la jeunesse dorée. Jean Blaise, que Rose Thénin avait à demi quitté, lui offrit des hommages qu'elle accepta. Cependant, Julie aimait à porter, comme au jour tragique, des vêtements d'homme. Elle s'était fait faire un bel habit de muscadin et allait souvent, un énorme bâton à la main, souper dans quelque cabaret de Sèvres ou de Meudon avec une demoiselle de mode. Inconsolable de la mort du jeune ci-devant dont elle portait le nom, cette mâle Julie ne trouvait de réconfort à la tristesse que dans sa fureur et, quand elle rencontrait des Jacobins, elle ameutait contre les passants en poussant des cris de mort. Il lui restait peu de temps à donner à sa mère qui, seule dans sa chambre, disait toute la journée son chapelet, trop accablée de la fin tragique de son fils pour en sentir de la douleur. Rose était devenue la compagne assidue d'Élodie, qui décidément s'accordait avec ses belles-mères. « Où est Élodie ?» demanda la citoyenne Chassagne. Jean Blaise fit signe qu'il ne le savait pas. Il ne le savait jamais. Il en faisait une ligne de conduite. Julie venait la prendre pour aller voir en sa compagnie la Thévenin à Monceau, où la comédienne habitait une petite maison avec un jardin anglais. À la conciergerie, la Thévenin avait connu un gros fournisseur des armées, le citoyen Montfort. Sortie la première à la sollicitation de Jean Blaise, elle obtint l'élargissement du citoyen Montfort, qui, sitôt libre, fournit des vivres aux troupes et spécula sur les terrains du quartier de la Pépinière. Les architectes Ledoux, Olivier et Wailly y construisaient de jolies maisons, et le terrain y avait en 3 mois triplé de valeur. Montfort était, depuis la prison du Luxembourg, l'amant de la Thévenin. Il lui donna un petit hôtel situé près de Tivoli et de la rue du Rocher, qui valait fort cher et ne lui coûtait rien. La vente des lots voisins l'ayant plusieurs fois remboursé. Jean Blaise était galant homme, il pensait qu'il faut souffrir ce qu'on ne peut empêcher. Il abandonna la Thévenin à Montfort, sans se brouiller avec elle. Élodie, peu de temps après l'arrivée de Julie à l'amour peintre, descendit toute parée au magasin. Sous son manteau, malgré la rigueur de la saison, elle était nue dans sa robe blanche. Son visage avait pâli, sa taille s'était amincie, ses regards coulaient alanguis et toute sa personne respirait la volupté. Les deux femmes allèrent chez la Thévenin qui les attendait. Démahy les accompagna. L'actrice le consultait pour la décoration de son hôtel et il aimait Élodie qui était à ce moment-là plus qu'à demi résolue à ne pas le laisser souffrir davantage. Quand les deux femmes passèrent près de Monceau où étaient enfouis sous un lit de chaux les suppliciés de la place de la Révolution, « C'est bon pendant les froids, » dit Julie, « mais au printemps, oh, les exhalaisons de cette terre empoisonneront la moitié de la ville. » La Thévenin reçut ses deux amis dans un salon antique dont les canapés et les fauteuils étaient dessinés par David. Des bas-reliefs romains, copiés en camaïeux, régnait sur les murs, au-dessus des statues, des bustes et des candélabres peints en bronze. Elle portait une perruque bouclée d'un blond de paille. Les perruques à cette époque faisaient fureur. On en mettait 6 ou 12 ou 18 dans les corbeilles de mariage. Une robe à la cyprienne enfermait son corps comme un fourreau. S'étant jeté un manteau sur les épaules, elle mena ses amis et le graveur dans le jardin que le doux lui dessinait, qui n'était encore qu'un chaos d'arbres nus et de plâtras. Elle y montrait toutefois la grotte de Fingal, une chapelle gothique avec une cloche, un temple et un torrent. « Là, dit-elle en désignant un bouquet de sapins, je voudrais élever un cénotaphe à la mémoire de cet infortuné Brotteau des Ilettes. Je n'étais pas indifférente, il était aimable. Les monstres l'ont égorgé, je l'ai pleuré. Demain, vous me dessinerez une urne sur une colonne. » Et elle ajouta presque aussitôt, « Oh, c'est désolant. Je voulais donner un bal cette semaine, mais tous les joueurs de violon sont retenus 3 semaines à l'avance. On danse tous les soirs chez la citoyenne Tallien. » Après le dîner, la voiture de la Thévenin conduisit les 3 amis et des maïs au théâtre Feydeau. Tout ce que Paris avait d'élégant y était réuni. Les femmes, coiffées à l'antique ou à la victime, en robes très ouvertes, pourpres ou blanches et pailletées d'or. Les hommes portant des collets noirs très hauts et leurs mentons disparaissant dans de vastes cravates blanches. L'affiche annonçait Phèdre et le chien du jardinier. Toute la salle réclama l'hymne cher aux Muscadins et à la jeunesse dorée, le réveil du peuple. Le rideau se leva et un petit homme, gros et court, parut sur la scène. C'était le célèbre Laïs. Il chanta de sa belle voix de ténor. Peuple français, peuple de frères. Des applaudissements si formidables éclatèrent que les cristaux de lustre en tintaient. Puis on entendit quelques murmures, et la voix d'un citoyen en chapeau rond répondit du parterre par l'hymne des Marseillais. Allons, enfants de la patrie! Cette voix fut étouffée sous les huées. Des cris retentirent. À bas les terroristes, mort aux Jacobins! Et Laïs, rappelé, chanta une seconde fois l'hymne des Thermidoriens. Peuple français, peuple de frères! Dans toutes les salles de spectacle, on voyait le buste de Marat élevé sur une colonne ou porté sur un socle. Au théâtre Feydeau, ce buste se dressait sur un pied douche du côté jardin, contre le cadre de maçonnerie qui fermait la scène. Tandis que l'orchestre jouait l'ouverture de Phèdre et Hippolyte, un jeune muscadin, désignant le buste du bout de son gourdin, s'écria « À bas, Marat !» Toute la salle répéta « À bas, Marat ! À bas, Marat !» Et des voix éloquentes dominèrent le tumulte. « Mais c'est une honte que ce but soit encore debout. L'infâme Marat règne partout pour notre déshonneur. Le nombre de ses boys égale celui des têtes qu'il voulait couper. Crapaud venimeux, tigre, noir serpent !» Soudain, un spectateur élégant monte sur le rebord de sa loge, pousse le buste, le renverse. Et la tête de plâtre tombe en éclats sur les musiciens, aux applaudissements de la salle qui, soulevés, entendent debout le réveil du peuple. Peuple français, peuple de frères! Parmi les chanteurs les plus enthousiastes, Élodie reconnut le joli dragon, le petit clerc du procureur, Henri, son premier amour. Après la représentation, le beau des Maïs appela un cabriolet et reconduisit la citoyenne Blaise à l'amour peinte. Dans la voiture, l'artiste prit la main d'Élodie entre ses mains. « Vous le croyez, Élodie, que je vous aime ?»« Oui, je le crois, puisque vous aimez toutes les femmes. »« Je les aime en vous !» Elle sourit. « Oh, j'assumerais une grande charge, malgré les perruques noires, blondes, mousses, qui font fureur, si je me destinais à être pour vous toutes les sortes de femmes. Mais Élodie, je vous jure... Quoi, des serments, citoyen des Maïs? Vous avez beaucoup de candeur. Vous m'en supposez trop. Desmahis ne trouvait rien à répondre, et elle se félicita comme d'un triomphe de lui avoir ôté tout son esprit. Au coin de la rue de la Loi, ils entendirent des chants et des cris et virent des ombres s'agiter autour d'un brasier. C'était une troupe d'élégants qui, au sortir du Théâtre-Français, brûlait un mannequin représentant l'ami du peuple. Rue Honoré, le cocher heurta de son bicorne une effigie burlesque de Marat pendue à la lanterne. Le cocher, mis en joie par cette rencontre, se tourna vers les bourgeois et leur conta comment, la veille au soir, le tripier de la rue Montorgueil avait barbouillé de sang la tête de Marat en disant « C'est ce qu'il aimait !» Comment des petits garçons de 10 ans avaient jeté le buste à l'égout, et avec quel à-propos les citoyens s'étaient écriés « Voilà son Panthéon !» Cependant, on entendait chanter chez tous les traiteurs et tous les limonadiers « Peuple français, peuple de frères !» Arrivée à la Bourg-Peintre, « Adieu !» fit Élodie en sautant du cabriolet. Mais Desmahis la supplia tendrement et fut si pressant avec tant de douceur qu'elle n'eut pas le courage de le laisser à la porte. Il est tard, dit-elle, vous ne resterez qu'un instant. Dans la chambre bleue, elle ôta son manteau et parut dans sa robe blanche à l'antique, pleine et tiède de ses formes. Vous avez peut-être froid, dit-elle, je vais allumer le feu, il est tout préparé. Elle battit le briquet et mit dans le foyer une allumette enflammée. Philippe la prit dans ses bras avec cette délicatesse qui révèle la force, et elle ressentit une douceur étrange. Et comme déjà elle pliait sous les baisers, elle se dégagea. Laissez-moi. Elle se décoiffa lentement devant la glace de la cheminée, puis elle regarda avec mélancolie la bague qu'elle portait à l'annulaire de sa main gauche, une bague d'argent où la figure de Marat, tout usée, écrasée, ne se distinguait plus. Elle la regarda jusqu'à ce que les larmes eussent brouillé sa vue, l'ôta doucement et la jeta dans les flammes. Alors, brillante de larmes et de sourires, belle de tendresse et d'amour, elle se jeta dans les bras de Philippe. La nuit était avancée déjà quand la citoyenne Blaise ouvrit à son amant la porte de l'appartement et lui dit tout bas dans l'ombre: Adieu, mon amour, c'est l'heure où mon père peut rentrer. Si tu entends du bruit dans l'escalier, monte vite à l'étage supérieur et ne descends que quand il n'y aura plus de danger qu'on te voie. Pour te faire ouvrir la porte de la rue, frappe 3 coups à la fenêtre de la concierge. Adieu, ma vie, adieu, mon âme. Les derniers tisons brillaient dans l'âtre. Élodie laissa retomber sur l'oreiller sa tête heureuse et lasse. Fin.